Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trade Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous. Voici un nouvel épisode d'une série spéciale « Élections européennes » réalisée en partenariat avec Public Sénat. Je vous le rappelle, je vous donne rendez-vous deux fois par mois jusqu'au 9 juin pour des épisodes très concrets. Quatre jours. Il n'aura fallu que quatre jours au président ukrainien pour prendre une décision capitale. Nous sommes le 28 février 2022. Quatre jours donc après le début de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, quand Volodymyr Zelensky signe une lettre officielle. L'Ukraine dépose sa candidature pour adhérer à l'Union européenne. La bascule est faite. Depuis, le sujet a beaucoup fait parler.
Qui pense sérieusement qu'on peut faire entrer un pays en guerre au sein de l'Union européenne ?
Manon Aubry, coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen.
Aujourd'hui, je voudrais réaffirmer que l'Ukraine est capable de devenir un membre à part entière de l'Union européenne.
Volodymyr Zelensky, président ukrainien.
C'est un processus long, très long. Il y a environ 75 occasions où le gouvernement hongrois peut arrêter ce processus.
Viktor Orban, premier ministre hongrois. L'Ukraine est donc aujourd'hui officiellement candidate, mais elle n'est pas le seul pays à frapper à la porte de l'Union européenne, loin de là. Alors, qui veut rentrer ? Qui peut rentrer ? Combien de temps ça prend et qu'est-ce que ça veut dire pour les pays qui sont déjà membres, comme nous ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode pour tout comprendre au processus d'adhésion à l'Union européenne. Bon, là, normalement, je ne vous apprends rien. L'Union européenne, c'est une association d'États. Et si je commence par là, ce n'est pas anodin. Car pour faire partie de l'Union européenne, bah déjà, il faut être un État. Et un État reconnu par les 27 pays déjà membres. On a par exemple un défi pour le Kosovo, qui a déposé sa candidature en 2022, alors que l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre ne reconnaissent toujours pas son indépendance. Pour les autres critères, j'ai posé la question à Élise Bernard. Elle dirige les études de la Fondation Robert Schuman.
La première condition, historiquement, c'est de promouvoir la paix.
Bah oui, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé lors des précédents épisodes. Si les États européens ont créé un marché commun de l'acier et du charbon dans les années 50, c'était pour éviter de se refaire la guerre.
C'est ce qu'on appelle la méthode Schuman. C'est-à-dire que petit à petit, on avance en exigence jusqu'à devenir un marché conséquent.
Donc la base, c'est la paix. Et quand on avance dans le temps, c'est la paix plus le respect de certains critères économiques parce qu'on est un marché commun. Et puis en 93, on va encore plus loin. Pour intégrer l'Union, il faut respecter les droits fondamentaux et l'état de droit. En résumé,
les trois critères que l'on considère comme indispensables pour rejoindre l'Union européenne, c'est l'attachement à l'état de droit, la promotion de la paix et des critères d'ordre économique et financier.
Là, je vous vois venir. Vous allez me demander, et quid des critères géographiques ? Parce que bon, c'est vrai qu'à ce rythme-là, l'Australie peut rentrer dans l'Union européenne. Eh bien, c'est vrai qu'il faut être géographiquement européen. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la candidature du Maroc a été rejetée. Mais bon, géographiquement européen, c'est quand même très flou.
Parce qu'en fait, les États membres et les candidats à l'Union, ils se situent tous sur la plaque tectonique eurasienne. Chypre se trouve à la jonction entre plaque tectonique eurasienne et africaine. Et en termes de kilomètres, il est plus proche du Proche-Orient. Si on remonte aux antériorités d'ordre culturel, dans la mythologie grecque, Europe vient du Liban. Et Zeus l'amène en Crète. Et la Géorgie, c'est le pays de la toison d'or de Médée. Donc, est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas. En fait, chacun va poser sa limite de l'Europe qui lui convient. Mais un État européen, en fait, c'est surtout un État qui se pense européen. Et moi, j'aime bien dire qu'un État européen, c'est un État qui a une vision exigeante de l'État de droit.
Maintenant que ces critères sont posés, comment ça se passe concrètement? Eh bien, ça commence par un courrier. Le pays doit se porter candidat officiellement auprès du Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Bah oui, on ne décide pas à la place d'un pays.
Cette candidature, elle va être évaluée par la Commission européenne qui va rendre un avis sur la base des critères qu'on a exposés tout à l'heure. Le Parlement européen va voter pour admettre cette candidature et le Conseil, donc les représentants des États membres, va admettre ou non sa qualité de candidat.
Ça en fait un processus pour être officiellement candidat et là, on n'a fait que le début du chemin. Et puis, gardez en tête qu'à chaque étape que je vais vous indiquer, un chef d'État ou de gouvernement à lui seul peut mettre son veto et on stoppe tout. Alors, pour vous citer les pays qui sont officiellement candidats aujourd'hui, il y a donc l'Ukraine, je vous en ai parlé, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie et la Turquie. Évidemment, tous en sont à des étapes différentes. Pour la Turquie, par exemple, les choses sont sur pause. Donc, une fois qu'on est officiellement candidat, on reçoit une feuille de route sur les réformes à faire en priorité pour avoir le droit de passer à l'étape supérieure.
L'idée, c'est donc d'assurer dans cet état candidat une économie de marché viable, la capacité de faire face à la pression concurrentielle et de plus en plus répondre à une vision exigeante de l'état de droit.
La Géorgie, par exemple, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, doit mener des réformes sur son système électoral. Elle doit aussi accroître la liberté de la presse et limiter le pouvoir des oligarques. C'est pour cela que le vote sur la loi dite « russe » pose problème. Tous les pays ont une feuille de route différente et l'Union les aide.
Ça veut dire qu'on va verser des fonds pour soutenir l'État candidat dans ses réformes législatives, soutenir la société civile, mais aussi recruter de nouveaux fonctionnaires, les former, etc.
Sur sa feuille de route, l'Ukraine doit lutter contre la corruption qui gangrène ses institutions. Mes collègues Fabien Recker et Jonathan Dupriez étaient d'ailleurs allés rencontrer une ONG financée par l'Union européenne qui aide le pays dans cette affaire.
Irina Chouba est bien placée pour mesurer le chemin qui reste à parcourir à l'Ukraine avant de faire partie un jour de l'UE. À la tête d'une ONG financée par l'Union européenne, elle aide le législateur ukrainien à lutter contre la corruption, premier problème national après la guerre, selon un sondage.
Depuis la révolution de Maïdan, l'Ukraine a réalisé de gros efforts pour combattre la corruption. Des entités spécialisées ont été créées, un bureau national anticorruption, des postes de procureurs spécialisés ainsi qu'une haute cour anticorruption. Cette chaîne institutionnelle peut désormais garantir que la corruption au plus haut niveau, par exemple dans l'appareil d'État, fasse l'objet d'enquêtes indépendantes du pouvoir politique avec suffisamment de moyens et de personnel. Mais nous devons être honnêtes, le combat contre la corruption est une histoire sans fin. Aucun pays n'est parvenu à en venir entièrement à bout. Nous devons être réalistes sur les progrès accomplis et les attentes de l'Union européenne. En définitive, ce sera aux États membres de décider si l'Ukraine est prête.
La transition est toute faite. Ce sont les États membres, encore une fois, qui donnent ou non leur feu vert pour l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est les négociations pour arriver à un traité. Et dans ces négociations, il y a 35 chapitres.
On les a regroupés en 6 groupes, fondamentaux, marché intérieur, compétitivité, croissance, environnement, connectivité, ressources, agriculture et relations extérieures.
Depuis 2020, on peut même rouvrir ces chapitres si on estime qu'un pays a régressé dans ses réformes. Ensuite, enfin je dirais, on arrive à un traité d'adhésion qui doit être ratifié par les 27 États membres et par le pays candidat. Certains le font forcément par référendum, ça c'est quand on consulte le peuple, d'autres par voie parlementaire. En France, on peut faire les deux sur le papier. Normalement, c'est par référendum, mais le Parlement peut aussi décider que finalement on passe par lui. Je vous ai dit, cette validation passe par les États membres, mais aussi par le pays candidat, parce que figurez-vous qu'il y a un pays dont le peuple a tout bonnement refusé de rentrer dans l'Union européenne. J'ai nommé la Norvège.
Ce qui se passe, c'est qu'au moment de ratifier le traité d'adhésion, la Norvège elle-même, les Norvégiens, ont rejeté l'adhésion de leur pays. C'est-à-dire que l'entrée peut aussi être bloquée au niveau de l'État lui-même. La Norvège a organisé deux référendums pour rejoindre l'Union européenne. À chaque fois, il y a eu un refus. Donc le refus, il vient pas forcément des États membres.
Ça fait quand même plusieurs minutes qu'on déroule ces histoires d'adhésion. Je vous ai expliqué que c'était assez long, avec des vétos possibles à chaque instant. On a forcément l'impression que ça prend du temps, mais en fait, c'est différent selon chaque pays et sa situation au moment où il veut intégrer l'Union européenne.
Par exemple, si on regarde l'élargissement en 1995, Autriche, Finlande, Suède, les négociations, elles ont été entamées en 1993, elles sont terminées un an et un mois plus tard. Et le dernier exemple qui tue tout, si je peux me permettre, c'est la Macédoine du Nord qui a déposé sa candidature en 2004, qui a été admise en 2005. Et on est en 2024 et les négociations ne sont toujours pas ouvertes.
Pour l'Ukraine, on voit qu'il y a une vraie volonté pour que les choses aillent vite, même si on imagine mal des négociations avant la fin du conflit de grande ampleur. Quand est-ce que ça interviendra? Je pense que personne ne le sait vraiment. Mais en tout cas, cette candidature, elle a un avantage.
Cette candidature, c'est un levier géostratégique. Pour eux comme pour nous, on va être clair là-dessus. L'Ukraine des oligarques qui se fait renverser, entre guillemets, pour embrasser un modèle exigeant en termes d'état de droit, c'est un aveu d'échec de l'influence russe. C'est tout.
Avant de terminer cet épisode, j'aimerais qu'on regarde aussi de l'autre côté du miroir, parce qu'on a beaucoup parlé des réformes dans les pays candidats, mais beaucoup évoquent aussi les réformes à faire au sein de l'Union européenne pour pouvoir intégrer ces nouveaux membres.
La sérieuse réforme qui commence à être mise en valeur, on va dire, c'est celle d'introduire des décisions à la majorité qualifiée en matière de politique extérieure. C'est-à-dire, je vous rappelle qu'on a quand même un représentant d'État membre qui a félicité ouvertement Vladimir Poutine pour sa réélection.
Viktor Orban, le premier ministre hongrois. Le problème, c'est que pour mettre fin à l'unanimité, il faut un vote à l'unanimité. Alors j'imagine qu'il va falloir de la persuasion diplomatique pour faire abandonner à Viktor Orban son pouvoir de nuisance au sein de l'Union européenne. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, cet épisode est terminé. Merci à Élise Bernard, directrice des études de la Fondation Schuman, pour son éclairage. Je vous rappelle que cet épisode fait partie d'une série spéciale en partenariat avec Public Sénat. Je vous donne rendez-vous deux fois par mois et jusqu'au 9 juin. Pour des épisodes très concrets. À très vite.